donne comme toi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi. Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras, comme prima.
Bonsoir Madame Ginette, bien le bonsoir Monsieur Kogan, bien le bonsoir Monsieur Edmond, l'équipe de Je m'ennuie bien est au grand complet pour passer cette heure avec vous, chers auditeurs.
Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de souffle, Madame Ariette?
Non, je cherchais mes mots.
Vous cherchez vos mots, c'est beau.
C'était l'émotion.
Allez, bonsoir à tous, bonsoir Madame Ginette.
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Kogan.
Bonsoir.
Oh, 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 il fait peur. Eh bien, écoutez, comme Madame Ginette doit partir bientôt, je vais juste vous donner 2-3 infos et puis après, je vous déroulerai ma partie la plus conséquente. Alors d'abord, je suis tombé juste avant cette émission sur une info. Je me suis gratté les yeux, je suis allé chercher une loupe. Je me suis dit non, mais il y a quelque chose qui ne doit pas... c'est l'AFP, c'est normalement une maison sérieuse.
Ce doit être extrêmement douloureux de se gratter les yeux.
Donc l'agence France Presse qui nous indique que l'EPR de Flamanville va fermer pendant 350 jours. Mais ce n'est pas le machin qu'ils viennent d'ouvrir ?
Oui, si. En jour, enfin, le coût par jour de fonctionnement est pour l'instant important, on ne va pas se mentir.
Alors je ne sais pas quoi, comme ils viennent de le mettre en route, il faut qu'ils fassent une inspection générale. Mais enfin, dites donc, moi je veux bien, on nous serine que le nucléaire quand même par rapport à l'éolien, au solaire, parce que ça marche qu'avec le soleil et le vent, c'est vachement mieux. Mais enfin, vu le temps qu'il faut pour construire le machin, si en plus il faut l'arrêter dès qu'on l'a mis en route, c'est quand même... c'est pas super intéressant. Hein.
Tous ceux qui instruisent le savent, quand un dossier démarre mal...
D'accord, allez. Alors, un titre, Terreur, ça commençait par Terreur. Alors déjà, vous dites, waouh, ça part bien.
Oh, ça part moins bien que quand Ivre, virgule.
Ouais, quand même, là, vous allez voir Terreur, et juste après, dans le Pas-de-Calais. Alors là,
Terreur
bah là,
dans le Pas-de-Calais.
Alors là, vous dites, ah bah oui, logique.
Ça commence à bien y aller, là.
Ouais, logique. Un Syrien reste bloqué 12 heures dans les égouts avant d'être secouru. Alors quand
mais
même, je suis allé voir.
Ben
c'est ça. Je suis allé voir quand même. Alors le mec pas de peau quand même. Donc il était coincé dans les égouts du centre commercial à Coquel, nous dit-on. Il réussit le dimanche soir à appeler les secours, sauf que son téléphone tombe en panne de batterie, donc il a pas le temps de dire exactement où il est. Donc on se met à le chercher. On recrute des pompiers, des policiers et même des agents du tunnel sous la Manche. Vu qu'il était dans les égouts, les mecs se sont dit on va prendre des tunneliers, ils ont l'habitude. Je sais pas. En tout cas, 12 heures avant qu'ils réussissent à le retrouver. Ce Syrien ressortissant de 25 ans. Il le retrouve avec des blessures au coude, souffrant d'hypothermie. Mais bon, il va bien. Et on ne sait pas, Madame Ginette, on ne sait pas à l'heure actuelle les circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé dans les égouts du centre commercial. Alors, je ne sais pas s'il espérait passer ainsi sous la Manche. Mystère.
Ouais.
Non, vous n'avez pas l'air convaincu.
Non, pas trop, non.
Modérément.
Voilà, bah peut-être on aura plus d'infos une prochaine fois. Donc évidemment, ne faites pas ça chez vous. Hein. N'allez pas dans les égouts des centres commerciaux. Déjà qu'en haut, ce n'est pas toujours reluisant, donc n'allez pas en dessous. Allez, Madame Ginette, c'est à vous.
Comme, eh bien, ça, comme d'habitude, vous me facilitez la tâche en matière d'enchaînement. Hein,
bah, bien sûr.
Non, j'ai trouvé 2-3 petits trucs de notre triste monde, hein, comme d'habitude. Tout d'abord, si vous vivez au Royaume-Uni, nous avons trouvé une niche fiscale intéressante pour être quasiment exonéré de charges professionnelles. Que faut-il que vous fassiez?
Est-ce que c'est en lien avec les animaux?
Oui.
Oh là là, Madame Ariette est heureuse.
Est-ce qu'il s'agit de venir en aide à des animaux ou de posséder des animaux?
De les posséder et de les élever.
Ah.
Les posséder.
Non, c'est pas ça.
Ouais, quelqu'un a pris possession de Monsieur Kogan.
Alors, je ne veux pas être déplaisante avec tous les fiscalistes, et ils sont nombreux qui nous écoutent. Cela étant, le droit fiscal comme marchepied pour la fantaisie gothique moyen.
Non. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais c'est n'importe quoi cette émission. C'est je m'ennuie bien, au secours, rentrez chez vous.
Le lien est ténu, en tout cas.
Bon, faut ça commencer mal en même temps.
Entre les deux univers.
Le Nord-Pas-de-Calais après le Royaume-Uni, j'ai envie de dire. Bon.
Bon, alors, il s'agit d'élever des animaux.
Des puces ?
Non, c'est un peu plus gros. Mais c'est pas très gros.
Mais c'est des souris.
Et en quoi ? C'est un peu plus petit.
Oula, oula, là, entre la souris et la puce, qu'est-ce qu'il y a ?
Des mouches ?
Des blattes. Des blattes ?
Non.
Et pourquoi on serait défiscalisé en élevant des blattes, enfin, Monsieur Kogan ?
Oh, vous savez, ces gens, hein, on ne les comprend pas toujours.
Entre mauvaises personnes.
Oh, dites donc.
Bon, arrêtons de déblatérer. Madame Ginette, donnez-nous la réponse.
Allez. Eh bien, figurez-vous que vous êtes quasiment exonéré de taxes professionnelles si votre terrain est considéré comme étant un terrain agricole. Mais un terrain agricole, ça s'entretient.
Oui.
Alors qu'il est si facile d'y mettre une petite vingtaine d'escargots et de dire que vous les élevez.
Oh,
c'est fort. Donc, il y a plus d'éleveurs d'escargots au Royaume-Uni que nulle part ailleurs, c'est ça que vous voulez dire ?
C'est tout à fait ça, de gens qui ont quelques escargots en disant « Ah oui, mais non, je les élève et ça, c'est ma propriété agricole. » C'est-à-dire, en gros, un jardin tout à fait normal d'habitation avec une vingtaine d'escargots au milieu.
Mais ils en mangent, les Anglais, des escargots ?
Non. Non, mais ils les élèvent.
Ils les élèvent pour ne pas payer d'impôts. On ne mange pas la poule aux œufs d'or. Même si c'est un escargot et pas une poule. Mais bon, bref, vous m'avez compris.
C'est dégueu.
C'est super.
Sachant que...
Donc, si vous ne savez pas quoi faire de vos escargots...
Ouais.
Sachant que d'après un célèbre youtubeur jardinier anglais, les jardins anglais sont quand même pas sur une vingtaine d'escargots, mais on est plutôt sur ça se chiffre en centaines voire en milliers. A priori, le climat anglais est très favorable aux gastéropodes.
Donc voilà, il suffit de dire ah, ces escargots, non, c'est les miens pour de vrai. Voilà, voilà.
Est-ce qu'il faut qu'ils aient un nom ?
Oh ben, j'espère.
Et une petite niche aussi, donc, non ?
À imaginer l'identification de l'escargot. Hein, imaginez de baguer les escargots, ça c'est moins drôle, hein, tout de suite.
Oh la vache! Alors vous baguez quelle partie de l'escargot?
Mais je ne sais pas. Je
Vous voulez vraiment parler des parties de l'escargot?
Non.
Ah bon? Okay.
Oui, je pense que je m'égare. Mais ça m'amène directement à l'étude suivante. Vous savez, parce qu'ils en avaient beaucoup parlé, qu'ils se sont rendus compte que bon, les oiseaux avaient une manière de communiquer. Ils disent pas juste cuicui, ils disent des vrais trucs. Et surtout, en fonction de là où ils sont, géographiquement parlant, ils ont des accents. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui disent pas au chocolat et des oiseaux qui disent chocolatine, par exemple.
Certes.
Mais
il y a le coucou et le cucu.
Il y a très peu qu'il n'y a pas que les oiseaux qui ont un accent quand ils s'expriment.
Les escargots aussi.
Alors, les escargots, non. Cependant, quels autres animaux ont surprenamment des différences régionales dans leur manière de s'adresser entre eux ?
Les chiens.
Probable, mais c'est pas sûr que porte l'étude.
C'est pas eux qui portent l'étude.
Les dauphins. Donc...
alors oui, les dauphins, oui, ça a été arrêté. Vous y êtes presque, mais vous n'y êtes pas.
Mais je ne sais pas.
On n'entend plus Monsieur Kogan, il est parti.
Les baleines.
Alors les baleines, oui, mais en gros, au-delà des mammifères marins, tous les poissons ont des façons de communiquer qui changent d'une région à l'autre.
Les poissons ?
Les poissons, exactement.
Oh, peu cher, j'ai été pêché là par un type, il était énorme avec la moustache qu'il avait, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, évidemment, les poissons marseillais exagèrent, vous le savez, vous le comprendrez. Voilà.
Bah, c'est l'histoire de la sardine, hein, dans le port de Marseille.
Bon, c'est un peu étrange ce que vous nous racontez.
Oui,
là.
Alors, et comment
Les poissons grognent, grincent, lancent des choses, ça peut être de l'eau, etc. se tapent sur certaines parties du corps et voilà, c'est comme ça que les poissons s'expriment et il y a des différences régionales.
Il y a des mecs qui sont allés étudier ça.
Exactement, il y a des chercheurs de l'Alabama qui ont réussi à établir ça.
Oui.
Pas bien à quoi ça va leur servir, mais c'est un fait.
Vivement que Trump coupe les crédits de la recherche. Oh là là, oh là là, oh
Là là, c'est déjà fait! Non.
Moi, je pensais que ça vous intéresserait, Monsieur Kogan, ça, les langues régionales des poissons.
Ah oui, ah oui. J'ai résisté à la provocation, là, depuis 10 minutes.
Madame Ginette, c'est à vous.
Je voulais juste finir par un tout petit truc trop mignon.
Mais oui, soyons mignons ce soir.
Autre chose que
Alors.
des cagouilles et de la poiscaille, oui, d'accord, ok.
Tout à fait. Alors, ça se passe en Floride, où il se passe peut-être une seule chose mignonne.
Ah.
C'est en Floride qu'il y a le couple marié depuis le plus longtemps.
Aux USA, vous voulez
Donc,
dire?
à quelques mois près, quand est-ce qu'ils se sont mariés?
En 1900,
Oui.
combien on peut dire?
Mais pour être raisonnable,
45?
42.
Ah, oh, j'étais pas mal.
Oui, pas
Le
mal.
en le 4 juin 42, exactement.
Et
Il
ils
avait
avaient, ouais, ils avaient 10 ans en fait.
Non, ils ont 107 et 108 ans.
Mais oui, Madame Henriette, il y a des vieux quand même qui existent.
Aux États-Unis, il y en a moins déjà.
Oui, mais
Donc
enfin, il en a quand
l'idée, c'est
même, en
ça, un double
Floride.
record en fait.
S'il y a bien un
Ils ont un
endroit où il y a
double
des vieux, c'est
record
en Floride.
homologué. Le premier, c'est la longévité de leur mariage. Et le deuxième, c'est l'âge cumulé du couple, puisqu'ils ont 216 ans à eux deux.
C'est pas mal.
Formidable.
Oh, j'aurais
Voilà,
dû
mais c'est
épouser
mignon,
Jeanne
je voulais
Calment.
finir par un truc mignon.
Oui, c'est mignon et quelque part, quelque chose les a conservés. On ne sait pas quoi.
Alors, ils l'ont expliqué, on leur a demandé leur secret, ils ont rigolé, ils ont dit, bah, on s'aime.
Et en effet,
Oh,
non,
choupinou!
mais. Ça ressemble à un truc évident et un peu naïf, mais aux États-Unis, c'est peut-être pas inutile de le rappeler.
Comme quoi,
Voilà.
l'amour, c'est tout l'un ou tout l'autre. Bon.
Vous êtes sombre. Votre âme est noire, monsieur Edmond.
Oui, je sais pas, il y a un petit souci, il vous est arrivé des trucs, vous êtes dans une...
Je veux de la bouillabaisse!
Vous êtes...
Mais je sais pas dans quelle langue.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Est-ce que ça change le goût si le poisson parle un autre accent? Non? Ça change le goût de la
Sais
bouillabaisse ou
pas.
pas?
Ils ne sont pas allés jusqu'ici, Trump leur a coupé les crédits.
Ah,
Des
bah,
animaux
ça m'a.
possédés, des animaux possédés comme Monsieur Edmond. Ouais.
Voilà. Et donc, je reviens à Monsieur Kogan qui voulait donc depuis le début posséder des escargots. Je pose ça là.
Voilà. Voilà. Des poissons qui parlent occitan, bravo. Ah, bravo!
Allez, ben, Madame Ginette, on va rester aux USA. Vous pouvez rester si vous voulez quelques minutes avec nous, puisque je voulais
Avec
revenir
plaisir.
rapidement sur l'élection de Mandani. Je sais pas comment on dit comme ça, Mandani.
Mamdani.
Mangani.
Mamdani.
Donc, 2 millions de New Yorkers sont allés voter. C'est un record depuis 50 ans, hein, même s'il y en a qui ont essayé de dire que bon, il avait gagné, mais bon, il n'y avait pas de participation, machin. Si, si, il y a eu de la participation. Donc, il a dépassé les 50%, hein, donc il est bien élu. Cet homme de 40 ans, ce jeune homme presque, et donc dans son programme, effectivement, c'était gel des loyers, les bus gratuits, et puis comment une assurance maladie, voilà. Et évidemment, à New York, c'est connu, il y a plein de millionnaires. Et donc, pour payer ces trucs, il a dit qu'il allait taxer les millionnaires. Et alors, ce qui m'a amusé, c'est que dans le magazine Time, qui est quand même pas réputé pour être hyper de gauche, ça dépend des moments, on va dire. Alors, eh bien, ils sont allés regarder quels étaient les. Alors, même pas les millionnaires, les billionnaires. Donc, les mecs qui ont encore plus de thunes que les millionnaires. Combien ces mecs-là sont allés dépenser dans des. Groupe, donc dans des groupes qui votaient contre Mandani. Donc il y avait un groupe qui était pour Cuomo, et puis il y avait un groupe carrément anti-Mandani, et puis il y avait un autre groupe, c'était Fort Hood City, et pareil, qui était contre la candidature de Mandani. Donc vous voyez, trois groupes auxquels on pouvait donner de l'argent. C'était beau. Alors je vais vous les donner dans l'ordre, dans ceux qui ont donné le moins, et puis jusqu'à là. Hein. Et alors ce qui a fait rire Mandani, c'est qu'il a dit. Quand même, ils sont bizarres ces gens parce ils ont dépensé encore plus d'argent que ce que je les aurais taxés pour que je ne sois pas élu. Donc
C'est idiot, c'est idiot.
c'est quand même. Voilà.
Et alors maintenant, c'est la double peine, les malheureux.
Voilà. Et alors, Dans leurs arguments, c'est que, évidemment, l'arrivée de Mandani comme maire de New York, c'était carrément une menace existentielle.
Ah oui, jusque-là.
Ouais, jusque-là. Alors, est-ce il leur a répondu... Oui, allez-y, M. Cogan.
Est-ce que vous avez vu que 50 Cent menaçait de quitter New York?
Oh, ben, qu'elle se casse. Qui se casse? Qui se casse? Il tapera moins sur les gens comme ça. Bon, alors... Et donc il a dit, bah, j'admets, c'est effectivement, ils ont raison, nous sommes une menace existentielle pour les billionnaires, en tout cas pour ceux qui pensent qu'ils peuvent acheter la démocratie avec leur fric. Alors, on perdu à ce petit jeu-là. On commence par ceux qui ont filé le moins, parce que soit ils étaient radins, soit ils croyaient vraiment, enfin ils n'étaient pas tellement contre Mandani. Laurie Tisch, $150,000. Alors qui est cette dame, allez-vous me dire?
Eh
bien, en fait, c'est une friquée qui, voilà, et en 2007, elle s'ennuyait tellement qu'elle a fondé qu'elle a monté une fondation et la Laurie Tisch Illumination Fund. Et figurez-vous qu'elle fait plein de trucs pour les New Yorkais et pas pour forcément les plus riches. Donc, c'est assez rigolo. Pourquoi elle était contre Mandani, on ne sait pas trop. Alice Walton, $200,000. Walton, ça vous dit quelque chose ou pas?
Non. Walden, oui, mais c'est pas du tout, ça n'a rien à voir.
Alors, héritière de la famille Walmart.
Ah, oula.
Vous voyez, ces grandes chaînes de magasins, machin. Bon, alors elle a filé $200,000, mais il faut savoir que...
C'est un peu de la radinerie quand même. Hein.
Ouais, vu tout le fric qu'elle a. Mais alors en plus, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Je pense, je ne sais pas, j'aurais bien aimé l'interroger comment elle fait, puisque il y a quelques années, elle avait filé du fric pour la réélection de George Bush. En 2016, elle avait filé du fric à Hillary Clinton. Donc, je ne sais pas trop quelle est sa ligne, en fait. Hein. C'est un peu étonnant.
Ouais, c'est une façon de défiscaliser, peut-être.
Voilà.
C'est ça.
Steve... Steve, alors, je ne sais pas comment on dit. WY2N. Steve Vine, je ne sais pas. Donc, lui, bon...
Ouais.
Ouais, bon, alors un mec qui a l'air tout à fait fréquentable puisqu'il a fait ses sous donc dans les immeubles et puis dans les casinos à Las Vegas. Casino de luxe, bon voilà. Il a longtemps eu des responsabilités dans le Parti républicain jusqu'à ce qu'un article du Wall Street Journal dise qu'au niveau sexuel, tout ça, avec ses subordonnés, il se comportait assez mal. Donc, il a été obligé de démissionner de tous ses postes au Parti républicain. Mais il a quand même filé $500,000 pour éviter que Mandani soit élu. Bon, ben voilà, $500,000 jetés par la fenêtre. On le remercie. On a Barry Diller, $500,000 également. Alors, c'est un pote de Rupert Murdoch. Hein, ils ont fondé ensemble Fox. Bon, donc on voit ce qu'ils font. Hein. Bon, pas grand-chose d'intéressant.
Des médias de qualité.
Voilà.
C'est ça.
Bill Ackman. Alors là, vous allez voir, là, on commence à monter dans du sérieux. Hein. Ça, c'est vraiment des mecs qui ne pouvaient pas le souffrir, Mandani, puisque Bill Ackman, quand même, a fait un chèque de $1,75 million. Enfin, 1,750,000, pardon. Alors, lui, c'est un investisseur. Hein. Bon, bah, visiblement, il ne sait pas quoi faire de son fric, hein, parce que quand vous en êtes là à dépenser... autant d'argent, près de 2 millions, juste pour qu'un mec soit pas élu.
Mais c'est un investissement.
Joe Gebbia, ça s'écrit un peu comme la... Non, bon, on va pas dire. 2 millions, lui aussi, carrément, 2 millions. Alors, moi je savais pourquoi je voulais pas utiliser Airbnb. Ben, je sais encore plus, hein, puisque c'est l'un des cofondateurs de Airbnb. Voilà. Donc, il a carrément dépensé 2 millions pour que Mandani soit pas élu à New York. Eh ben écoutez, tous ceux qui louent Airbnb, vous serez contents d'apprendre que voilà ce qu'il fait des sous que vous lui filez. C'est super. La famille Lauder, comment c'est? Estée Lauder.
Oui, là c'est la cosmétique.
Ouais, la cosmétique, voilà. Alors, on prend le fils, Ronald, 750 000. Sa femme, Joe Carroll, 500 000. Et le neveu, William Lauder, 1 million. Alors, à eux tous, 2,6 millions. Hein.
Ça, c'est un pari à la fin d'un dîner familial trop arrosé.
Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux quand même? Que enfin, je sais pas, tout ce fric, c'est quand même dingue. Et le pactole, 13,3 millions. Qui a fait ça?
Je ne sais pas, mais c'est bien mal employé vu le résultat.
Et c'est assez rigolo quand même. C'est assez rigolo.
C'était tellement plus simple pour lui de partir à ce prix-là.
Ah ben, vous... Alors, justement, il est parti, Madame Henriette. puisque c'est le maire sortant, élu trois fois, Michael Bloomberg, qui a filé 13 millions pour que l'autre ne soit pas élu. Autant dire qu'il se pensait irremplaçable ou je ne sais pas.
La classe, le fair play.
Oh la vache.
C'est magnifique.
L'élégance.
Le fair play, l'élégance.
Ah oui, non, là, vraiment.
Bravo.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, New York va passer d'un maire qui visiblement était ultra riche, hein, puisque quand on arrive à dépenser 13 millions dans ce genre de conneries, bon, voilà, c'est qu'on ne sait plus quoi faire de ses sous, à un maire qui finalement va être sans doute beaucoup plus près que la majorité des habitants. Ah. Voilà, on verra ce que ça donne. Ah. Allez, voilà, et bien écoutez, on va passer à Madame Henriette.
Non,
je m'ennuie bien.
Je vous salue.
Eh bien, on dit au revoir à Madame Ginette et merci beaucoup pour ces infos sur les escargots.
Au revoir.
Vous savez maintenant comment placer votre argent.
Je vais me renseigner voir si ça ne marcherait pas en France.
C'est bien plus rentable d'avoir un élevage d'escargots que d'essayer d'empêcher un politique d'être élu.
Au revoir.
Tout à fait. À bientôt.
Je vous donne quelques nouvelles rapides de Corée du Sud.
Ah bah oui, ça faisait longtemps.
Voilà, de Corée du Sud et surtout du président Yoon, pour qui ça va toujours pas très fort. Hein.
C'est qui le président Yoon ?
Vous savez, ce président qui a voulu faire un coup d'État.
Ah
et
bah c'est
qui...
pas le président, alors c'est l'ex-président. Ah oui,
pardon,
parce que là, moi je me disais, mais je comprenais plus
non,
rien.
Non, il s'appelle, c'est I, son prénom actuel, son nom de famille actuel.
Oui, donc dites bien l'ex-président, il est plus du tout président.
Non, plus du tout. Il est plus du tout président. Par contre, il est actuel taulard.
Oui, bon, ça, c'est une routine, j'ai envie de dire. Il n'y a pas qu'en Corée qu'on voit des anciens présidents.
Alors, puisqu'il est en prison, et ça ne s'arrange pas trop son affaire, c'était juste pour vous le dire rapidement, c'est moyennement bien parti pour lui.
Vous voulez dire
qu'il ne
va pas sortir tout de suite ?
Ben non, parce que là, en plus de tout le reste, il est inculpé d'aide à l'ennemi. Oh, c'est nul.
C'est-à-dire, quel ennemi ?
Eh ben, l'ennemi nord-coréen, parce qu'en fait, et oui, pour pouvoir justifier son super coup d'État, vous savez, dont la date lui avait été dictée par un chaman, c'est vous dire à quel point tout ça était rationnel, eh bien, il avait essayé de faire un petit peu d'agitation, de provocation de l'autre côté de la frontière pour pouvoir dire, ben, regardez, on est
justement,
menacés.
Je croyais qu'il avait accusé les autres de marcher pour la Corée du Nord.
Alors, il avait accusé les... ça, c'est très drôle. Ce qui est la gauche coréenne, mais bon, il faut le dire vite. Hein,
en tout cas, l'opposition, voilà. On va dire.
L'opposition de l'époque.
Ouais.
Et oui, il les avait accusés, évidemment, de collaborer avec la Corée du Nord et d'être de dangereux factieux communistes.
Et alors, comment ça se retourne contre lui, ça ?
Mais parce qu'en fait, on a trouvé des éléments comme quoi il a réellement tenté des provocations au nord et ils avaient prévu d'attaquer donc des cibles au nord. Enfin voilà, en tout cas de
pour se mettre en état
panique.
De guerre, d'accord.
Non,
ah,
pas
oui.
de guerre, mais en tout cas de tension, on va dire. Donc figurez-vous que ça n'a pas amusé les procureurs.
Oui, oui, bah j'imagine même le public général, ça n'a pas dû les faire rire, ce genre de manœuvre.
Non, non, c'est pas... Voilà. Donc,
en plus, au moment où Ruwon est sous les drapeaux, quand même, c'est pas sérieux.
Alors, Ruwon, déjà...
pardon, Ruwon
Ruwon, voilà. Et qui vient effectivement de commencer son service militaire, mais vous vous en moquez car vous ne savez pas qui c'est. Et effectivement, c'est quand même une connaissance tout à fait dispensable. On poursuit, donc...
Il est habillé pour l'hiver, au moins, il n'aura pas froid dans les tranchées.
Bah, ils ne sont pas dans les tranchées, enfin, quand même, je sais que ce n'est pas marrant, le service militaire en Corée du Sud, mais enfin, on ne les met pas dans les tranchées, ou alors pas trop longtemps, et puis on les habille quand même, hein, parce qu'il fait froid dans ce pays. On passe à un autre pays, et on va complètement de l'autre côté, puisqu'on va au Brésil. Je voulais vous parler d'un très intéressant article du Monde, d'un long article qui est paru le 9 novembre et qui parle des projets qui pourraient développer la ville d'Oiapoque. Alors, Oiapoque, je pense qu'on dit. C'est une ville qui a une situation tout à fait particulière parce qu'elle se situe un petit peu en deçà de l'embouchure de l'Amazone, là où l'Amazone se jette dans l'océan. C'est une embouchure absolument énorme. Et cette ville, elle se situe de l'autre côté de l'Amazon, c'est la Guyane française. Donc vous avez d'un côté le Brésil, de l'autre côté de l'Amazon, la Guyane française. Et vous avez un pont qui le relie. Mais c'est pas ça le propos. Le propos, c'est que, eh bien, juste avant la COP30 qui vient de débuter à Belém, donc au Brésil, eh bien, quelques jours avant, les autorités brésiliennes ont autorisé la prospection pétrolière dans cette région. Alors ça faisait un moment que c'était attendu, puisque on pense que les réserves sont absolument énormes. Donc c'est Petrobras, hein, et bien sûr, qui va être chargé.
Ah bah oui, il est bien connu lui.
Voilà, qui va être chargé de cette prospection. Il s'agit d'une petite ville, Oiapoque, qui actuellement est de 30 000 habitants, mais très rapidement ça devrait augmenter, puisque des Brésiliens de tout le pays arrivent. Donc c'est une ville très pauvre. Pour l'instant, eh bien, ces gens sont logés dans des habitats insalubres et clairement des bidonvilles. Mais tout le monde espère devenir riche avec l'or noir qui devrait être extrait malgré tous les signaux contraires qui sont évidents, hein, puisque... Bien évidemment, il s'agit de pétrole. Bien évidemment, nous sommes à l'embouchure de l'Amazonie et donc avec une biodiversité tout à fait unique et remarquable, des espèces menacées et qui seraient ruinées par une éventuelle marée noire qui est tout à fait probable, hein, puisqu'en fait, à cet endroit-là, on est quand même à la rencontre d'un fleuve extrêmement large avec l'océan. Il y a des marées absolument incontrôlables et donc le moindre accident aurait des conséquences dramatiques.
Mais enfin, quand même, les gens qui font du pétrole savent ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous parlez de marée noire ?
D'ailleurs,
ça arrive jamais,
ils sont tellement prévoyants qu'ils ont déjà construit un centre de secours pour la faune, pour venir en aide à la faune si jamais il y avait une marée noire. Ce qui explique l'article fait hurler de rire le directeur de la réserve naturelle, puisque... Bien évidemment, s'il y a une marée noire, eh bien, ce sera catastrophique et ils ne pourront sauver personne.
Oui, c'est des gens qui n'ont jamais vu une marée noire. Oui.
Alors, non seulement ça, mais il n'y a pas le moindre accès dans cette réserve pour aller chercher un quelconque animal.
Même s'ils pouvaient les chercher, la dernière fois qu'il y a eu des marées noires, par exemple, pour ramasser les oiseaux, mais c'est pour les mettre dans une poubelle, hein, c'est pas pour les sauver, hein, une fois qu'ils sont mazoutés. Il y a quelque chose que je ne comprends pas quand même, Madame Henriette, c'est que... En ce moment, il y a donc la COP, vous l'avez dit, au Brésil. Lula n'a pas arrêté de faire des ronds de jambes pour dire que c'était génial et qu'il fallait baisser, être en dessous des 1,5%.
Alors, ce qu'on soupçonne assez peu avec notre logique d'occidentaux, c'est qu'en fait, Lula est un partisan affirmé et revendiqué de l'extraction pétrolière, puisque pour lui, eh bien, c'est tout simplement de l'argent en plus qui permettra de développer son pays et d'être redistribué vers les plus pauvres, en tout cas c'est ça le message. Alors ce qui est intéressant...
Mais alors pourquoi il nous embête avec la COP ? C'est ça que je comprends pas.
Eh bien lui, c'est très rigolo, parce que, vous allez rire, il argumente que l'argent du pétrole va permettre de...
Trouver des solutions ?
L'argent du pétrole va financer la transition verte.
Oh non, mais ils sont indécrottables, hein, quand même. Non mais sérieux.
Non, mais
c'est dans le pétrole qui... C'est l'utilisation du pétrole qui fait qu'on en est là.
Oui, bon, c'est comme ça. Cette région est promise à...
Un sombre avenir, oui.
Un développement économique peut-être intéressant pour les habitants, et c'est en tout cas ce qu'ils espèrent, hein. Une bonne partie des habitants de la région sont tout à fait favorables à ce pétrole qui leur permettra d'être enfin, peut-être... moins pauvres, parce que c'est quand même une zone très pauvre. Et donc, ceux qui sont beaucoup moins enthousiastes, eh bien, évidemment, ce sont ceux qui s'occupent de la protection de l'environnement dans cette zone. Et puis, bien sûr, les peuples indigènes, qui, eux, ont bien compris que c'était la fin pour eux.
Non, ne dites pas qu'on ne les a pas consultés.
Alors, on ne les a pas consultés. L'article explique, c'est assez drôle, qu'il y a eu une réunion de concertation qui s'est située à un endroit et à un moment à peu près inaccessible donc pour ces populations indigènes. Et bon, ils connaissent bien les hommes blancs, hein, c'est ce qu'ils disent. Là, je vous lis la citation dans l'article. Le blanc est égoïste, il ne voit que le court terme. Nous sommes trop peu nombreux pour influencer quoi que ce soit. On sait qu'on ne pourra rien empêcher. Voilà. Alors,
Ils sont lucides.
Il va y avoir non seulement la destruction de leur habitat, de ce qui fournit leur nourriture, mais en plus, ils pensent être assez rapidement délogés puisque la ville va s'étendre et le groupe qui a été interrogé par le journaliste du Monde se situe malheureusement pour lui à 15 km à vol d'oiseau de la ville. Autant dire que l'extension de la ville devrait les pousser plus loin. Voilà, donc eh bien cette perspective est de toute façon devant eux, et puisque donc
et inéluctable.
À peu près, puisque en fait c'est la prospection qui a été autorisée, mais c'est un...
Oui, s'ils cherchent là, c'est qu'ils espèrent trouver quelque chose.
Oui, ils savent qu'il y a des réserves importantes et puis il n'y a absolument aucune ambiguïté. La prospection a été autorisée, c'est le premier pas vers l'exploitation. Et donc, j'avais envie de relier tout ça avec un petit article tout à fait amusant ou ironique, je ne sais
mais
pas.
Dites donc, Madame Henriette, trois articles, vous étiez d'une forme...
éblouissante. Un article, ce que vous trouverez sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle, le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui s'intitule de façon très provocatrice « À quoi sert la biodiversité ?» point d'interrogation. Et qui indique... dès le début que cette question est assez bête pour être celle que se posent les humains. La biodiversité n'a pas à servir à quoi que ce soit, elle n'a pas à être utile, ce sont des préoccupations d'humains et c'est bien pour ça que nous ne sommes pas en mesure ni de préserver la biodiversité ni de la restaurer, c'est parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Alors c'est pas exactement ce que dit l'article, puisque l'article bien sûr est un article scientifique qui vous explique ce qu'est la biodiversité et pourquoi elle n'a pas besoin d'être utile, puisqu'elle est en fait absolument nécessaire. Je vous invite à aller voir cet article.
Non mais vous essayez de nous dire qu'il y aurait une différence entre utile et nécessaire ? Eh ben, voilà, c'était le moment philosophie dont je m'ennuie bien. Eh bien, après ça, il est temps de retrouver Monsieur Kogan, alors.
Eh oui, pour ça...
Il va nous parler de culture, peut-être, enfin.
Enfin dans cette émission.
Oui, enfin dans cette émission.
Alors, je vous amène peut-être plutôt dans votre salon cette semaine, avec deux films et une série, donc deux films de plateforme et une série. Vous aviez compris. Alors, Ron Howard est un pilier d'Hollywood. On est tous obligés d'avoir non seulement vu un de ses films, mais d'en avoir au moins deux ou trois dans sa filmo favorite. Pour moi, évidemment, ça ne surprendra personne, c'est Willow. Vous voyez, pour ne pas citer A Beautiful Mind, comme tout le monde. Et bref, je m'égare. Le dernier film de Ron Howard, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, Madame Henriette. Eden. Voilà, Eden, je cherchais le titre.
Eh bien, je ne l'ai pas vu.
Eden est pour le moins assez différent du reste de sa filmo. Le pitch est bien écouté. D'abord, dire que c'est une histoire vraie. Bon, des fois, ce n'est pas un gage de qualité, mais c'est intéressant. Alors, au début des années 30, un couple d'Allemands fuit l'Europe, on peut les comprendre, et part s'installer avec leur adolescent sur une île perdue des Galapagos, Floreana. Inspiré par le docteur Ritter qui vit là avec sa compagne atteinte de la sclérose en plaques, Doré Strauch. Les deux couples ne fusionnent pas vraiment au début, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est l'arrivée d'une mondaine et de ses deux amants qui va vraiment tout bouleverser. En réalité, tout va très très vite dégénérer, exploser. Donc, pour porter cette histoire, qui en fait est un espèce de thriller, donc assez dramatique. On a une belle brochette d'acteurs. Jude Law, Daniel Brühl, Sydney Sweeney, complètement à contre-emploi. Et donc là, pour le coup, on est obligé de dire que c'est une bonne comédienne. Hein. Dans le rôle donc de Margaret Whitner, qui est une de celles dont on a le témoignage pour expliquer cette histoire, et Vanessa Kirby, donc qui joue la malade entre guillemets, et bien sûr Ana de Armas. Ana de Armas est vraiment délicieusement horrible dans ce film. Voilà, bon bref, c'est pas la première fois qu'elle fait qu'elle est dans ce credo, mais elle est très bien. Et donc c'est à voir sur Amazon Prime, c'est à voir, mais c'est pas non plus le film de l'année. Voilà, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y avait deux, trois petites choses en termes d'écriture qui auraient pu être faites.
C'est un huis clos alors ?
En quelque sorte, puisqu'il y a des interventions extérieures, mais relativement minimes. Hein. Mais il y en a une quand même qui est assez importante, puisqu'on a des images tournées par un cinéaste américain venu sur l'île. Donc, c'est assez intéressant de voir les vraies images à la fin. Mais c'est un huis clos qui, pour le moins, dégénère. L'autre film dont je voulais vous parler, c'est The Woman in Cabin 10. Donc, c'est sur Netflix, pour ne pas citer. Alors, Simon Stone est un réalisateur australien qui nous avait beaucoup séduit. Je crois que Monsieur Edmond avait vu ce film-là aussi, peut-être vous aussi. Ça s'appelait The Dig, et c'était une histoire vraie d'archéologue dans les années 30 en Grande-Bretagne, avec une découverte absolument exceptionnelle. Il y a un casque saxon très célèbre issu de ce chantier. Bref, ce film était très bien, et ce spécialiste aussi d'opéra a voulu là être un peu plus dans quelque chose de distrayant. Là aussi, avec un thriller qui se déroule sur un yacht. Et Keira Knightley, en première personnage, enfin, qui a le premier rôle, bon, qui joue une journaliste enquêtrice un petit peu en reconstruction. Bon, là, honnêtement, elle enquête sur une disparition étrange face à Guy Pearce. Voilà, bon, Guy Pearce, c'est un peu un des tâcherons du cinéma, hein, faut pas se mentir. Donc là, honnêtement, elle a l'air totalement larguée, et nous aussi. Le film dure 1h32, et pourtant, on trouve ça très long. Alors, c'est bâclé, la fin, c'est raté un petit peu quand même. Donc honnêtement, voilà, c'est vraiment si vous n'avez rien d'autre à faire.
Il vaut mieux attendre le prochain de ce réalisateur, d'après ce qu'on comprend.
C'est ça. Si vous ne l'avez pas vu, The Dig, regardez plutôt The Dig. Alors, une série sur l'histoire de l'Irlande. Alors, vous allez me dire, j'étais obligé de la regarder. Mais, en plus, sur la famille la plus célèbre de Dublin, j'étais plus qu'obligé, bien entendu. Alors, je veux bien sûr parler de la famille Guinness, parce que la série parle de cela, et en l'occurrence, la série soulève des critiques assez acerbes, hein, quand même, sur l'île d'Emeraude, où... écoutez, au vu des libertés prises avec la vérité historique, hein, en l'occurrence sur le mouvement fainéant, sur la communauté irlandaise à New York, et bien sûr sur le sujet de fond qui est cette famille en question, puisque c'est même dans le titre, ça s'appelle House of Guinness. On est 22 ans après la grande famine, la bourgeoisie protestante profite bien, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant que le peuple, lui, à grande majorité catholique, est exsangue, pour ne pas dire famélique et amer. On suit les quatre enfants héritiers de la célèbre brasserie, donc. On suit aussi leur homme de main, hein, Rafferty, l'icône du mouvement indépendantiste, et toute une brochette de personnages plus ou moins patibulaires, sur fond de beaux salons, de ruelles sordides, de beaux paysages, mais de visages tristes. Et évidemment, en fond sonore, de la musique irlandaise, en veux-tu, en voilà, parfois traditionnelle, parfois plutôt les Dropkick Murphys. Bon, voilà, donc c'est assez sympa. On comprend le propos. Donc, si vous n'êtes pas trop regardant sur l'exactitude historique, si vous aimez être à la fois amusé et ébloui, il y a quand même des choses intéressantes et importantes qui sont dites hein, dans cette série. Et à la fois, ça peut aussi se déguster hein, avec une pinte et des chips au vinaigre, avec modération, les chips au vinaigre, bien sûr. Et bah, écoutez, cette série est pour vous. Alors voilà, côté intrigue, coup fourré politique, subtilité scénaristique, on a peut-être fait un petit peu mieux, mais écoutez, on est à l'heure de la post-vérité, alors, de toute façon.
Le réalisateur, ce n'est pas celui qui avait fait Peaky Blinders ?
Alors, c'est la même équipe hein, qui avait fait Peaky Blinders, et on retrouve beaucoup de techniques utilisées, en particulier sur l'omniprésence de la nuit. Hein. Dans le propos, il y a beaucoup de choses qui se passent avec des petites lumières tamisées et dans les ruelles. Donc ça, on retrouve cette ambiance-là, très sympa. Et puis, bah, Louis Partridge, dans le rôle d'Edward Guinness, est excellent. James Norton en Rafferty, parfait. La famille Guinness est une des héritières, là, Ivana Lowell, descendante donc de la fantasque Anne. Ont été associés, hein, et ont nourri le scénario de certaines anecdotes incroyables mais vraies. Donc ça, c'est à découvrir, hein, évidemment. Et donc la prochaine fois que vous irez à Dublin, il faut visiter le quartier général Guinness. Hein. D'ailleurs, la porte est toujours là, c'est toujours la même. C'est assez fascinant, comme la visite en question. Donc voilà, je répète, 8 épisodes sur Netflix.
Et
House of Guinness.
Est-ce que ça peut se regarder avec des, on va dire, des collégiens ou est-ce que c'est très violent ?
Écoutez, moi, ce que j'ai trouvé le plus violent, c'est la fausse couche dans la calèche. Et ce que je trouve vraiment le plus violent, en réalité, c'est quand on comprend la souffrance d'une partie de la population. Donc, c'est plutôt intelligent. Donc, c'est tout à fait compréhensible, même regardable par des... Mais il y a 2-3 scènes un petit peu coquines, alors. Peut-être que il faut avoir au plus de 12 ans, disons. La semaine dernière, pour parler d'autre chose, si vous en êtes d'accord, la semaine dernière, j'avais évoqué quelques prix littéraires. Alors, attendu que, évidemment, c'est la saison. Alors aujourd'hui, je m'arrête sur deux prix. Le prix Nadar 2025, remis conjointement par la BNF, le musée NIPS à Chalon-sur-Saône et évidemment le ministère de la Culture, donc par des photographes, voilà, puisque c'est un beau livre d'images. Cette année, c'est le livre « Aux ombres » de Simon ou Simon, je ne sais pas, Van Steenwinkel, je crois que ça se prononce comme ça. Il est lauréat pour cet ouvrage sur les Lakota, en fait. Donc, c'est Sioux qui font chaque année un espèce de pèlerinage à cheval. Et donc, il les suit et il prend des photos. C'est en noir et blanc. J'en ai vu quelques-unes. C'est magnifique. Le deuxième prix que je trouve génial, donc c'est la première fois qu'est décerné le prix Guincourt. Voilà, on comprend le jeu de mots. Et donc, est-ce que vous m'entendez toujours ?
Oui, je vous entends parfaitement. Je suis fascinée. Eh oui, ces remises de prix. Alors, des prix que je ne connais pas, en fait.
Ah oui, c'est la première fois. Évidemment, c'est un prix de littérature lesbienne francophone. Et là, 4 autrices sont récompensées. Fatima Daas, dont j'ai parlé la semaine dernière, donc pour son roman « Pour jouer le jeu ». Et oui, c'est bien l'autrice de « La petite dernière », voilà, dont j'ai parlé, de l'adaptation cinématographique. Vous vous souvenez sans doute. Wendy Delorme pour Le Parlement de l'eau, Sabrina Calvo pour Mais cette villa demande toujours plus de lumière, et Nelly Slim pour Entre ici et avant, il y a La mer. Voilà, c'est toujours assez étonnant les titres un peu poétiques comme ça. Alors, on me dit dans l'oreillette que un téléspectateur. Égaré de CNews vient de tomber en PLS. Voilà. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah, ben si, que lundi, évidemment, cette semaine, tout le monde va pas beaucoup parler du 13 novembre, le vendredi 13 novembre, et c'est normal, puisque 130 victimes ont été dénombrées ce jour-là.
Oui, vendredi 13 novembre, que nous avons commémoré le jeudi 13 novembre 2025, effectivement.
2015-2025. Donc, au bout de 10 ans, se sont rajoutées deux victimes supplémentaires de suicide liées évidemment au traumatisme de ce jour-là. Et donc, évidemment, nous pensons aux victimes, à leurs familles, mais aussi aux survivants qui doivent se reconstruire. Et donc, la semaine prochaine, je vous parlerai peut-être de la série qui a été adapté de certains témoignages. Qu'est-ce que je peux vous dire d'un peu plus guilleret? C'est difficile après ça.
Oui, vous n'aurez pas de mal à trouver quelque chose de plus léger.
Voilà, j'en profite évidemment pour saluer Cathy qui était au Bataclan ce soir-là et qui a sorti une bande dessinée un petit peu en forme de thérapie. Et mon pote Franck, qui était ce soir-là aussi, et qui ont évidemment perdu des gens ce jour-là. Écoutez, passons à autre chose. Show must go on, le 17 novembre. Que s'est-il passé le 17 novembre 1869?
Vous aimez vraiment le 19e siècle quand même. Hein. 1869, un rapport avec Napoléon III, sa fin de règne?
Oui, mais bon, c'est pas lui qui a fait ça.
Non, l'histoire syndicale peut-être. On est dans la période. Vous me posez une colle. Allez-y.
Eh bien, c'était l'inauguration de
1869, non.
Du canal de Suez.
Oh, bon sang, mais oui.
Et oui.
En effet.
Ces affaires vont rebondir plus tard avec le cousin du canal de Suez, en l'occurrence le canal de Panama. Et là, ce sera moins clair, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, piégeant nos troubles.
C'est un petit peu ça. Joyeux anniversaire, vous allez me dire, à Jeff Buckley. Voilà. Il aurait eu...
Oui, alors, ou pas.
Ou pas, voilà. Donc voilà, puisqu'il était né le 17 novembre 1966.
Oui, il aurait failli vieillir en fait.
C'est cela. Martin Scorsese fêtera ses 84 ans, si je ne m'abuse. Et c'est aussi l'anniversaire du Gallois Tom Ellis et de la Canadienne Rachel McAdams. Ce sont des comédiens que j'aime assez. Un petit hommage à quelques gens qui sont partis. Alors, dans le milieu du cinéma, eh bien, écoutez, Sally Kirkland, peut-être que vous vous souvenez de cette actrice qui a joué avec Mel Brooks, Jonathan Demme et même Romero. Mais peut-être que vous ne vous en souvenez pas. Omayoun Erskadi, qui était un acteur iranien assez connu pour avoir joué en l'occurrence dans Le goût de la cerise ou Les cerfs-volants de Kaboul dans Zero Dark Thirty. Voilà. Peut-être que vous connaissez beaucoup mieux Tatsuya Nakadai. Ça ne vous dit rien non plus?
Alors, j'en ai entendu parler et je le regrette, mais j'ai découvert à l'occasion de sa mort, comme ça arrive souvent d'ailleurs.
Alors moi, je me souviens de lui dans Kagemusha, voilà. Et donc, il a joué voilà, avec Kurosawa, mais pas seulement, avec Kobayashi. Et il a même doublé des animés. Voilà, c'est un garçon qui a eu une grosse carrière.
A priori, oui, monstre sacré du cinéma japonais. Hein.
C'est cela. Pauline Collins, qui avait joué avec Hoffman et Joffé, mais aussi dans des séries comme Doctor Who. Diane Ladd. Et Diane Ladd, elle avait joué dans Chinatown, dans Primary Colors, mais elle était aussi connue pour être la mère de Laura Dern. Là.
Donc, ah tiens.
Comme quoi, bon sang, on ne saurait mentir. Et parmi les grosses figures du cinéma qui sont décédées, il y a Lee Tamahori. Voilà, et donc le réalisateur néo-zélandais avait 75 ans et évidemment, il laisse derrière lui une belle carrière, voilà. En l'occurrence, L'âme des guerriers, qui est un film incroyable sur les Maoris, hein, évidemment, en Nouvelle-Zélande. On peut citer, entre autres choses, À couteau tiré ou Meurt un autre jour. Donc, c'était quand même un garçon qui était habitué au cinéma, à grand spectacle. Dans le milieu de la musique, Donna Jean Gocho, qui était membre de Grateful Dead, voilà. Et puis j'ai dû noter deux, trois autres personnes, mais je ne me souviens plus. Et dans le milieu littéraire, on peut noter l'anthropologue Jean Benoît, l'écrivaine britannique Marina Lewycka, Jean-Claude Guibaud, qui était un écrivain français, spécialiste de Jacques Ellul, qui avait eu le prix à Albert Londres, hein, quand même. Et Francine Christophe, qui était une femme de lettres, mais qui était aussi une ancienne déportée. Voilà. Il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. Pour terminer quelques dates, si j'ai encore un peu de temps.
Vous avez encore un peu de temps, profitez-en.
Eh bien, écoutez, la semaine donc, qui arrive ce 18 novembre à Limoges, vous avez à la Servoiserie un carton Comedy Club à 19h. Le mercredi 19 novembre, là, c'est une lecture dédicace à Pagé Plume avec Elsa Boyer. Mais le 10 novembre, vous pouvez enchaîner. Ouais, vous pouvez enchaîner avec une causerie. Donc, à la librairie Occitane, c'est toujours en centre-ville, à Limoges, avec une causerie sur Marcel Delpastre, hein, parce que c'était l'année Marcel
C'est son
Delpastre,
année, en effet.
donc avec Jean-Pierre Cavaillé. Le jeudi 20 novembre, toujours à Pagé Plume, une rencontre sur les femmes de la série noire avec Natacha Levé et Benoît Tadié. Le même soir, si vous préférez la musique à la littérature, ou si, voilà, vous pouvez tirer au hasard, je ne sais pas, un apéro Beaujolais nouveau avec l'ami Léon à la cornemuse et l'ensemble bulgare. C'était au Petit Jourdan. Il y a toujours des choses amusantes au Petit Jourdan à Limoges. Ce soir-là, il y a un concert de Black Swan à l'Espace Nauriac. David Cyr, lui, sera en concert à Louis, comment ça s'appelle? Au Troquet Culturel, rue Louis Lagrange. Vous avez un cinéma-conférence autour des événements d'Haïti au Lido, le même soir. Et puis Caroline Estremo, elle, jouera le lendemain à Jean Gagnant. Vous avez aussi un spectacle à Limoges-Landouge, donc tout le week-end du 21-24. Donc c'est la salle qui se trouve, la salle la salle municipale à Landouge. Et donc là, vous avez tout un tas d'événements autour de la musique traditionnelle, une rencontre entre la Normandie et le Limousin. Meurtre, sexe et trahison à la Comédie de Limoges, c'est aussi le vendredi 21. Un concert du Peuple de l'Herbe à la Note. Donc là, c'est en Creuse,
Tout
hein.
à fait.
Voilà. Les frères Dubs seront au Limogé vendredi 21 à 22h. Et vous avez la sécurité, c'est du art punk qui vient de Montréal. Et c'est au Calme, samedi 22 novembre à 19h. Les Croquants et Piquons Mon Amour seront à l'espace Gerbassou à 19h ce samedi à 22 à Ambazac, pour ceux qui ont oublié. Vous avez aussi à l'international Say Hello, Wave Goodbye, Tribute to Dave Ball. Donc c'est à 20h le samedi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un Baltrade avec Rémi Geoffroy. Alors là, il faut que je retrouve le lieu précis. C'est à la salle des fêtes de Saint-Junien. Rémi Geoffroy, c'est une grosse pointure de l'accordéon et de
D'accord.
la musique
Et rappelez-nous la date.
traditionnelle. C'est le samedi, toujours,
Toujours samedi 22
le
novembre.
samedi 22. Vous avez une release party à Cold Cold Blood. Je sais que vous connaissez très bien ce
Tout
concept.
à fait.
Avec son nouvel album, donc d'homme orchestre, Nobody Moves. Et donc, c'est avec l'ami Ben Amor, qui vient de Bordeaux exprès donc pour jouer. C'est à Jean Gagnant et ça se passe à 20h30 à Jean Gagnant. Et puis, un gros événement, c'est le concert Richard Galliano à l'espace Bayle à Lille. Là, c'est une énorme pointure, évidemment. De l'accordéon. Au concert Les Vaginites à 20h30 au théâtre du Cloître à Bellac. Voilà, on est dans quelque chose d'un petit peu plus léger. Quoique, un live metal hardcore au Dropkick Murphys à 20h30. Et puis, qu'est-ce que je voulais rapidement vous dire? Dans le cadre du festival Éclat des Mailles, là, il y a beaucoup de choses. Alors, je vais juste dire qu'il y a au Grand Théâtre, voilà, par exemple, le duo Jade Coq, donc c'est à l'Opéra le mardi 18 à 20h, si je ne m'abuse. Kenny Barron, trio, au Grand Théâtre toujours, le mercredi 19. Vous avez comme ça un certain nombre de dates, je ne vais pas toutes les dire. Il y a des événements le 20, le 21, le 22, avec des concerts tous plus excellents les uns que les autres, sachant que le concert de clôture, Christy D'Achille, donc avec son concept Journey in Black, sera à 17h le 23-11 au Grand Théâtre à Limoges. Parmi les autres événements, j'avais quand même noté un petit peu d'événements guérétois, figurez-vous. En l'occurrence, Othello, donc par la compagnie théâtrale francophone, c'est une compagnie occitane, si je ne m'abuse, c'est à l'espace Fayol, c'est le mardi 18 novembre. Donc c'est une adaptation de Shakespeare assez libre, visiblement, et je pense que c'est assez sympa. Voilà, c'est à 20h30, et donc c'est à Guéret, si je ne m'abuse.
Vous ne vous abusez pas.
Voilà, la Fédération Hiéro, elle, produit un nouveau spectacle. Alors là, ça va être un petit peu plus énervé. Ça s'appelle « Du son pour l'audition », le concert qui va vous faire du bien aux oreilles. C'est à l'espace Fayol, c'est le jeudi 20 novembre. Je n'ai pas très, très bien compris, mais j'ai cru comprendre que s'associe à ça nos amis de Dirty Rodeo. Vous voyez l'idée?
Oui, alors on est sur du son, en effet.
Voilà, on est un petit peu sur du son. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, peut-être qu'on va s'arrêter là, parce que...
Oui, parce que là, vous avez donné pas mal de dates, et c'est la fin de cette émission.
Eh bien, merci.
Merci à vous, et on se dit la semaine prochaine.
Salut, à bientôt.
Quel à vous.
Comme prima, tu me donnes tant de joie. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima, tu me donnes tant de joie. La notte, come allora, magica scende, la luna splende, e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire. Accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora, come prima tu me donnes chaque jour, come prima tu me donnes ton d'amour, que j'espère te le rendre quand t'es heureuse.